Chapitre 6 Le matin du réveil. Le lendemain matin, vers 9 heures, par un soleil radieux, une température fraîche et gaie, une magnifique voiture automobile de grand tourisme roulait sur une longue route bordée de grands arbres qui coupaient en deux une immense plaine. La voiture s'arrêta à l'ombre de ces arbres. Deux hommes en descendirent, vêtus de peaux de chauffeur, et celui qui se trouvait à côté de lui. Ils tournèrent autour de ce petit bouquet de bois, de ces arbres, fouillèrent même dans le taillis, et avec une longue vue, ils inspectèrent la plaine au loin, longuement, attentivement. Puis, rassurés, sur le bord de la route, ils installèrent un réchaud à alcool et préparèrent le déjeuner du matin. Comme ce déjeuner était prêt, un troisième personnage sortit de l'intérieur de la voiture. Il parlementa avec les deux autres qui s'étaient dressés et l'avaient salué poliment. Puis ce personnage, qui était vêtu aussi de la fourrure de chauffeur, entra de nouveau dans la voiture. Et bientôt il en sortait, suivi d'un quatrième personnage, également vêtu de la fameuse peau de chauffeur. Ce quatrième personnage gesticulait, avait l'air fort en colère et s'en prenait au troisième, s'en prenait aux deux premiers. Disons tout de suite, bien que sans doute on l'ait déjà deviné, que ce quatrième personnage était le chevalier Fontis. Le troisième Martin Dumas et les deux autres, le chauffeur et l'agent à tournure de valet de chambre anglais. Chevalier Fontis criait à Martin Dumas « Oh, mais qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi sommes-nous ici et dans quel but nous entourer ainsi de mystère? Pourquoi camper comme des bohémiens sur la grande route et transformer cette voiture en roulotte de gitane ?» Martin Dumas ne répondit pas. Il avait allumé une cigarette, s'était confortablement assis sur le revers de la route, et il laissait le chevalier parler, crier, gesticuler, tout à son aise. Martin Dumas savait que le meilleur moyen de faire cesser toute discussion, quand on ne veut ni essayer de convaincre un adversaire, ni se débattre pour une cause quelconque avec quelqu'un qui n'est pas de votre avis, le meilleur moyen, dis-je, est de ne plus garder une position semblable à celle de l'interlocuteur. Si celui qui discute est debout, on n'a qu'à s'asseoir. Immédiatement, le ton de l'adversaire doit changer. C'est un fait physique. Et s'il est assis, on n'a qu'à se lever, et le cours de ses idées est modifié. Si l'on se met à marcher, c'est sans doute une allure qui peut passer pour du mépris, pour de l'indifférence, mais qui, certainement, modifie la puissance des arguments, fait dévier le sens véritable des débats, et même, fatalement, l'auteur a haussé le ton, a forcé son élocution, à s'épuiser plus vite. Peut-être, dans ces constatations qu'il est facile à quiconque de faire, doit-on trouver les causes de la lenteur inexplicable de la justice, dans ce fait que la magistrature est assise et que la magistrature debout ne déambule pas assez. Si le tribunal se promenait pendant que les pro-avocats parlent, les avocats parleraient moins et la cour aurait plus de plaisir à siéger, étant donné que bien rares sont les personnes qui peuvent dormir en marchant. Il arriverait que les arrêts seraient plus rapidement rendus. Cela, hélas, ne se passera que dans un monde meilleur et nous ne nous y arrêterons pas plus longtemps. Le chevalier Fontis, après avoir bien crié, bien gesticulé devant Martin Dumas et les deux agents, après s'être mis en fureur et avoir crié dans le vent, crié d'autant plus que Martin Dumas l'écoutait toujours assis, toujours fumant, d'un air absolument impassible, le chevalier finit par se calmer, ainsi que l'attendait Martin Dumas. Alors celui-ci, de son ton le plus calme, de la façon la plus engageante, lui dit « Mon cher chevalier, je crois que depuis notre dîner d'hier soir, vous n'avez rien pris et que, bien que vous ayez dormi jusque-là, vous avez besoin maintenant, malgré le proverbe qui dort dîne, vous avez besoin, ainsi que moi qui dormais à côté de vous, de vous restaurer. Le chevalier cria encore, mais je n'ai pas faim, je ne mangerai rien, allez au diable, vous et votre dîner. Toujours paisible, Martin Humain répondit: Mais nous n'irons pas au diable, encore moins en enfer, puisque nous allons vers un coin de paradis terrestre qui s'appelle la Sicile. À ce mot, le chevalier se calma soudain. La Sicile, dit-il, comment la Sicile? Et avec effarement, il se mit au milieu de la route, regarda de tous côtés, chercha à reconnaître les lieux. Il étudia l'immense plaine, regarda le ciel, la terre, les arbres, se demanda où il pouvait bien être. Mais ah ça, s'écria-t-il, où sommes-nous? Mais combien de temps m'avez-vous fait dormir? Depuis combien de jours suis-je assis entre vos mains, comme une momie que vous trimballez à votre plaisir? Est-ce que vous m'avez déjà débarqué en Italie? Où sommes-nous? Je vous en prie, dites-moi où nous en trouvons. Martin Dumas, entre deux bouffées de cigarette, lui dit: Non, non, nous sommes toujours en France et vous avez dormi à peine 10 heures. Nous ne sommes qu'à 10 heures de Paris, pas plus. Nous avons très bien marché et nous sommes arrivés à l'heure fixée, à l'endroit même où nous comptions faire notre première étape. Bravo! Je dois féliciter devant vous mes chauffeurs, mes deux agents qui se sont relayés d'heure en heure au volant. Ils ont accompli cette performance admirable de vous amener sans encombre, sans arrêt, ayant détourné tout soupçon, ayant dépisté tout espionnage à l'endroit précis, à l'heure voulue où nous devions arriver. Puis il ajouta: Allez, asseyez-vous maintenant et déjeunons consciencieusement, car nous avons encore une assez longue route à faire. Nous ne sommes pas au bout du voyage, loin de là. L'agent, à tournure de domestique anglais, et que Martin Dumas appelait Tony, avait disposé une petite table pliante et deux sièges pliants également. Il servit des viandes froides, des sandwiches et du chocolat. Le chevalier, après son moment de mauvaise humeur provoqué par la surprise et par cette sorte de vexation d'amour-propre d'avoir été ainsi endormi et emporté malgré lui, de s'être trouvé en somme un jouet entre les mains du détective, son accès de fureur passé, avait tendu la main très loyalement à Martin Dumas. Mon cher ami, dit-il, pardonnez-moi de m'être ainsi laissé emporter. Vous savez combien les mouvements de colère sont en dehors de mon caractère, et vous devez comprendre combien j'ai du regret à présent. Je vous donne comme excuse tout simplement l'énervement dans lequel je me trouve depuis quelques jours, depuis le soir fatal. Je vous prie de ne pas me garder rancune. Martin Dumas répondit: Vous voyez bien, chevalier, que je n'ai pas l'air de m'en être formalisé. Merci, cher ami. Le chevalier demanda ensuite: Ainsi donc, vous m'avez arraché à cette fameuse mise en secret, à la prison préventive. Oh, vous êtes libre, mon cher. Seulement, il faut, pour le bien de la cause, que personne ne sache qu'on vous a remis en liberté. Et vous avez réussi? Ah oui, suffisamment, puisque nos ennemis à Paris gardent toujours avec le plus grand soin la prison dont personne ne peut sortir sans qu'ils le sachent. Ils gardent aussi, plus étroitement encore, l'hôtel du Chevalier Fontis, la rue Lepic où je demeure. Ils sont enragés plus que jamais à suivre mon cher Courville et cet excellent Martin Dumas. Pendant ce temps, le chevalier Fontis se trouve sur la grande route et Martin Dumas l'accompagne. Le chevalier, maintenant tout à fait désarmé, se mit à rire du bon tour joué aux ennemis et il serra les mains de son ami en lui disant « Oh, je le puis, mon cher, que vous approuvez. Je dois maintenant me prêter aveuglément à tout ce que vous décidez. » Martin Numa ajouta « Maintenant, oui, mais il est certain que si hier soir je vous avais dit ceci, mon cher chevalier, nous sommes cernés, nous ne pouvons sortir d'ici qu'en vous déguisant. » Le chevalier se leva d'un bond, ne laissant pas l'achever Martin Numa. « Ah non, cela jamais !» s'écria-t-il. « Jamais plus je ne me revêtirai d'Henri Pau quelconque. Oh, jamais plus je ne me prêterai à une mascarade odieuse et indigne de moi. Un travestissement quelconque à mes yeux, maintenant, me serait comme le dernier des déshonneurs. » Martin Numa hocha la tête et dit « Bon cher chevalier, de ce que l'homme, par nécessité, pour mieux accomplir son devoir, pour lutter à armes égales avec des forbans, avec des malfaiteurs, passe sur lui-même des effets qui peuvent changer son aspect physique, il ne change pas lui-même. Il ne s'ensuit pas, quand il s'habille et revêt des effets qu'il transforme, qu'il ne doit plus être lui. Oui, c'est évident. Alors un déguisement, en certains cas, est non plus une livrée de plaisir ou de honte, mais quand le péril est en face et que, sous n'importe quel oripeaux, on marche à la mort, ce déguisement devient un habit de lutte, de bataille, un vêtement de gloire, puisqu'il vous permet d'accomplir votre devoir. L'on ne doit nullement rougir de l'avoir endossé. « C'est vrai, dit le chevalier, c'est vrai. » Et je dois désormais garder comme relique sacrée ces lambeaux de costume de pierrot blanc, grâce auxquels j'espérais sauver mon ami, qui maintenant porte la trace de son sang, comme il eût pu porter la trace du mien. Et affectueusement, tendant les deux mains à Martin Numa, il conclut « Alors, encore une fois, cher ami, vous avez raison. » Ils achevèrent de déjeuner en silence.